Le nouveau roman de Marie-Laure de Cazotte, Le gardien de l'inoubliable, est disponible aux éditions Albin Michel. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour Roland, merci de me recevoir.
Mais de rien, ça va bien, en pleine forme.
En pleine forme.
Où emmènes-tu le lecteur ou la lectrice durant cette histoire ?
Alors, Le gardien de l'inoubliable, c'est un texte qui est écrit au jeu et au passé. C'est un homme qui parle. Il s'appelle Tristan Karadec. On pense qu'il a à peu près 40 ans quand il écrit ce livre, quand il revient vers ses souvenirs. Et puis, il va nous raconter son enfance en Bretagne et puis sa première expérience professionnelle à 20 ans à Paris. Et Tristan Karadec, c'est un gamin dont on pourrait dire qu'il n'est pas exactement né dans la bonne famille. Ça ne se passe pas bien avec ses parents. Ses parents ne comprennent pas son caractère. Et pour exister, en fait, ce petit garçon va mentir énormément et imaginer énormément.
Est-ce que Tristan a une double personnalité ?
Et Tristan, c'est une question complexe parce que Tristan, à un moment donné de sa vie, va faire la connaissance d'un monsieur Kurosawa, qui est un personnage qui n'existe pas, qui est un ami intérieur, dont il ne sait pas lui-même qui il est, s'il est inventé ou s'il existe véritablement.
C'est pour ça que je te dis double personnalité.
Double personnalité, il est un peu borderline, hein, Tristan Karadec. Ce n'est pas un psychopathe, mais...
Il entend des voix, quoi.
Il entend... Bon, tu sais, les enfants ont des amis...
Imaginaires, oui.
Ont des amis imaginaires. Lui, dans son cas, c'est un ami imaginaire qui reste jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est un peu plus que ça. Il dit que ce n'était pas son double. Mais c'est très ambigu, parce que non, M. Kurosawa, ce n'est pas mon double. Même si, comme moi, il n'aime pas la couleur lavande, il n'aime pas l'odeur d'eau de Javel, et qu'il lui arrive de se couper les mèches des cheveux. Je veux dire, il dit on n'a pas du tout le même caractère. Mais c'est très ambigu.
Dans ce roman, tu mêles vérité et imaginaire.
Je mêle complètement les deux. C'est une tresse qui, parfois, peut perdre le lecteur. Par moments, le lecteur...
C'est ce que j'ai posé comme question. Est-ce que le lecteur est perdu ?
C'est-à-dire que s'il ne se laisse pas flotter, s'il ne se laisse pas embarquer par ce bateau, s'il se demande si c'est vrai ou si c'est pas vrai, il va être un petit peu perdu. Mais à partir du moment où il accepte la navigation, tout va bien.
Où s'arrête la vérité et où s'arrête l'imaginaire dans ce livre ?
Alors, il y a un personnage dans ce livre qui est un personnage de philatéliste qui m'a beaucoup amusé et qui dit à un moment donné à Tristan « Mais qu'est-ce que la vérité si ce n'est l'addition impossible des faits et des intentions ?» Déjà, la vérité, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. Et l'imaginaire, au fond, c'est une vérité intérieure. Donc... Ce petit Tristan, et même Tristan de 20 ans, c'est un garçon qui parle imaginaire, rejoint une vérité et une réalité.
En t'écoutant, c'est un livre ambigu.
C'est un livre qui questionne, je crois, la relation que nous entretenons avec le réel. Je crois qu'on ne se pose pas souvent la question de savoir dans quel imaginaire, enfin, quelle est la part de l'imaginaire dans nos vies. Là, en l'occurrence... C'est aussi un livre qui questionne sur les conséquences que peut avoir la violence sur la construction psychologique d'un enfant.
Comment est né ce personnage de Tristan et l'histoire du livre ?
Alors, j'ai travaillé très longtemps dans le marché de l'art. J'ai travaillé un peu en Angleterre, en Belgique, dans cette grande maison qui s'appelle Christie's. J'ai côtoyé beaucoup, beaucoup de faussaires dans ma vie. Des faussaires extraordinaires, des gens incroyablement... inventif, imaginatif. Je voulais écrire là-dessus. Et puis finalement, ce petit Tristan est arrivé. Et c'est lui, plutôt qu'un faussaire, que j'ai suivi et que j'ai guidé vers un autre faussaire. Donc ça, c'est un faussaire très particulier, comme personnellement, je n'en ai jamais rencontré.
Marie-Laure, est-ce que tu peux nous lire un extrait de ce livre ?
Oui, un petit extrait. Alors, c'est dans la deuxième partie. Tristan Karadec... Il travaille dans une galerie sur les archives d'un artiste qui le passionne, qui est mort en 1914. Et puis, il y a un timbre que sa grand-mère lui fait remarquer que ce timbre ne peut pas être là. c'est historiquement impossible. Et alors, c'est là que commence l'enquête et il va dire un timbre. Celui qui doute espionne, se met dans la peau d'un enquêteur. Il ne se lève pas le matin, comme tout le monde, ne pose pas ses pieds sur la descente de son lit de la même façon que les autres. Dès l'instant où il bascule ses jambes hors de ses draps, il place ses mains sur ses cuisses, s'y appuie quelques instants, le front alourdi de questions. Lorsqu'il marche, il réfléchit, suppute, croise indices et éléments et devient caméra dès lors qu'il est sur les lieux du crime supposé. Du fond de ma cave à la galerie, dans l'espoir que surgirait un indice, je notais fébrilement les allées et venues, j'écoutais les pas, les voix. C'est ainsi que Tristan Caradec commence, enfin c'est dans cette humeur-là que Tristan Caradec va entamer son enquête. Et on va voir que, en matière d'enquêteur, il n'est pas mauvais, mais que qu'est-ce qui peut se laisser emporter par son imaginaire ? Voilà.
Est-ce tiré de faits réels ou vécus, ce livre ?
Alors, je me suis inspirée pour la première partie. Il y a un personnage de maîtresse que j'ai appelé Micheline Lavacharde. Ça, c'est vraiment le portrait craché d'une maîtresse que j'ai eue quand j'étais petite.
Donc, elle était vache, elle était méchante, quoi.
Oh, c'est une ordure. Disons-le moi, oui.
Ah, tu dis une ordure.
C'est une femme épouvantable.
C'est fort,
non,
tout de même.
Ah, oui, non, c'est quelqu'un qui irait en prison de nos jours. Mais ça, et puis dans la deuxième partie, comme j'ai beaucoup travaillé dans le monde du marché de l'art, je n'ai pas eu de difficulté pour décrire l'atmosphère d'une galerie. Et aussi, comme je connais très, très, très bien le principe des biographies des artistes, le fonctionnement des archives et aussi la façon dont les faussaires fonctionnent, vraiment, j'ai pu m'appuyer sur cette expérience-là pour parler du monde du marché de l'art.
Donc, l'écriture de ce livre a été assez simple et rapide, non ? On t'écoute en parler ?
Alors, j'aimerais te dire oui, mais je n'ai pas pour le moment une expérience de livre simple et facile à construire. Je pense que ce livre présente une lecture très fluide, mais en réalité, pour atteindre ce niveau pour moi, de fluidité, c'est un travail énorme. Donc, ce livre m'a demandé, comme tous les autres, environ 14 mois de travail. Je n'ai pas eu de recherche à faire, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas eu de recherche à faire que ça m'a demandé moins de travail.
Le gardien de l'inoubliable, ce titre, a fait écho dans tout le livre.
Oui, le gardien de l'inoubliable, au tout début, c'est un nom qui est donné à une pierre, découverte dans une crique.
Par Tristan.
Pierre qui va devenir son talisman, qui va l'accompagner partout, et jusqu'à Paris, et dont il va vraiment... à laquelle il va souvent faire référence. Et ce gardien de l'inoubliable, en fait, qui est donc cette corde qui traverse tout le livre, trouvera sa résolution à l'extrême fin. Et c'est une grosse surprise.
Est-ce que cette pierre va aider Tristan à mener son enquête ?
Cette pierre, en fait, elle n'a qu'un rôle très, très annexe. Elle n'a qu'un rôle de talisman, c'est presque un talisman protecteur. C'est vraiment un objet comme son ami intérieur, c'est un objet auquel Tristan est très très attaché.
Un petit gris-gris quoi.
Un petit gris-gris. Et on va aussi, un petit gris auquel il va accorder des pouvoirs à la suite d'un malentendu, d'une lecture qu'il n'aura pas achevée, il va lui accorder des pouvoirs tout à fait étranges. Et une fois de plus, à l'extrême fin, il va savoir de quoi il s'agit. Alors là, ça va être quelque chose.
Le livre Le Gardien de l'Inoubliable est paru aux éditions Albin Michel. Merci Marie-Laure de Cazotte.
Merci beaucoup Roland.